rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, désœuvrés, incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est notre amour à tous deux.
Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, l'émission Vendémiaire de ce 22 décembre 2014, la 10e émission consacrée à Elsa Triolet, avec, comme à notre habitude, Maria Berlioz et Jean Knopf de l'Association nationale Salaët, des amis de Louis Aragon, Elsa Triolet. En ouverture, vous avez entendu une chanson, un texte d'Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux, sur lequel nous reviendrons au fil de cette émission, puisqu'on va évoquer la période 42 à 44. Je dirais simplement que si c'est bien Brassens qui a écrit la musique sur ce texte d'Aragon, il avait pris soin, quant à lui, de ne pas chanter le dernier couplet, avec un prétexte fallacieux qu'il a évoqué en face d'Aragon pour se dédouaner, mais personne n'est dupe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc il l'a fait en 53, Aragon, et peut-être bien que j'ai pas pu vérifier ça, mais le premier qui a enregistré l'intégrale de la chanson, c'est Jacques Douet, dans cet enregistrement qui est son deuxième 25 cm, en 1955, donc 2 ans après, une époque où la chanson n'avait encore pas eu son succès, et avec cette originalité d'un son qui est peut-être pas parfait, mais à l'époque, Jacques Douet, quand il faisait des enregistrements, ils enregistraient en même temps le chanteur et les musiciens. quelque chose qu'on fait plus du tout, alors vraiment plus du tout aujourd'hui. On fait des mixages après coup, mais là, les preneurs du son étaient tels que on se payait le culot d'enregistrer en une prise, en une fois, l'accompagnement et la chanson, et en plus une version intégrale avec un couplet quelque peu sulfureux que Brassens avait bien pris soin d'éviter de faire connaître au public. Je donne la parole à mes invités donc pour qu'ils nous développent toute cette période de la vie d'Elsa Triolet.
Oui, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Bon, peut-être en prélude de cette émission, et comme on parle de chanteurs, on voudrait dire deux mots du dernier album d'Hubert Félix Thiéfen, que je suppose de nombreux auditeurs de Radio Canu écoutent, puisque c'est un chanteur quand même qui a autour de lui un club vraiment de gens qui sont très fervents. Très fervent de ce chanteur qui se situe dans la lignée, enfin qui revendique l'héritage Léo Ferré, oui plutôt Léo Ferré, hein, puisque je l'ai déjà entendu en parler souvent. Alors voilà, pourquoi en parler à propos d'Elsa Triolet et d'Aragon, c'est que dans son dernier album qui s'appelle « Stratégie de l'inespoir », il y a une chanson qui nous pose vraiment beaucoup de problèmes parce que elle relève quand même d'un amalgame qui est inacceptable et mensonger. Alors voilà, pour faire bref, il y a une chanson qui s'appelle Karaganda Camp 99 entre parenthèses Camp 99. Alors en cherchant un peu des renseignements, Karaganda donc c'est une ville du Kazakhstan qui a été construite dans les années 30 dans le but d'exploiter des gisements de charbon. Et bien entendu, la politique stalinienne s'en mêlant, on a déporté des prisonniers politiques au goulag. Donc Karaganda est devenu un goulag important dans l'Union soviétique de ces années-là. Et également, en cherchant sur Internet, j'ai également découvert que notamment nombreux républicains espagnols, parce que les républicains espagnols venaient souvent des mouvances trotskistes, ont été également déportés à Karaganda et sur Internet, on trouve d'ailleurs un site qui leur est consacré là-dessus. Alors, ça évidemment que ce sont des actions historiquement absolument inacceptables. Seulement, dans la chanson de Thiéfen, il y a un refrain. C'est le refrain, il revient à trois reprises, qui dit ceci. C'est l'histoire assassine qui rougit sous nos pas. C'est la voix de Staline. C'est le rire de Beria. C'est la rime racoleuse d'Aragon et d'Elsa. C'est le cri des enfants morts à Karaganda. Alors bon, Beria, hein, c'était le commissaire, enfin le ministre de l'Intérieur, hein, je sais pas comment l'appeler, le commissaire du peuple. On l'a d'ailleurs soupçonné d'avoir empoisonné Staline, hein, bon, parce que la mort de Staline, hein, c'est quelque chose d'un peu mystérieux aussi. Nous on est très choqués par cette assimilation des crimes staliniens et de son exécuteur Beria. Et du rapprochement avec Aragon et Elsa, qui ont quand même été, faut quand même le dire, c'est certain qu'ils ont appuyé la politique de l'Union soviétique, enfin surtout Aragon d'ailleurs, qui appuyait vraiment la politique de l'Union soviétique au moment de la guerre froide. En plus, il a été élu au comité central. Bon, ça c'était son choix, son histoire. Mais c'est quand même passé un peu... sur une période de l'histoire où notamment celle qu'on a évoquée dans la dernière émission et celle qu'on va évoquer ce soir, où vraiment la rime n'était pas racoleuse. Et ça, je trouve que c'est vraiment très injurieux. Et alors ceux qui iront plus loin dans le disque, ils tomberont sur une autre chanson où l'amalgame se poursuit. Bon, Thiéfen est un grand admirateur comme beaucoup de gens de Céline, hein, la musique célinienne, le style célinien. Mais évidemment, il évoque les épisodes du Céline antisémite, etc. Et dans une chanson qui s'appelle, je crois, Retour à Stalingrad. Alors le grade, évidemment, le grade faisant passer de ben de l'Allemagne hitlérienne à l'URSS. Hein, donc on voit tout ce cheminement qui amalgame un peu tout et qui introduit la plus grande confusion. Et franchement, assimiler Aragon, Céline et Elsa en disant tout ça, c'est la même chose. Ça non, ça c'est vraiment inacceptable.
Et avant de terminer, Jean, j'ajouterais, Thieffen n'a pas lu certainement le monument d'Elsa Triolet, hein, où elle critique justement cette période. Et puis, il y avait un vers de Aragon auquel tu tiens.
Ah oui, je porte le soleil noir, je porte le soleil dans mon obscurité. C'est tiré de ce poème qui est paru donc en 56 dans le roman inachevé qui s'appelle La nuit de Moscou. Et je pense qu'on est nombreux à être dans une certaine obscurité aujourd'hui avec tout ce qui se passe et puis peut-être une certaine absence de perspective. Et je pense pas que Thieffen en tant qu'artiste nous rende grand service en chantant ça, quoi, franchement.
Peut-être que Thieffen n'a pas lu grand chose finalement.
Ben, je ne sais pas. Enfin, d'Aragon et d'Elsa, j'en doute un peu quand même.
Et de l'histoire politique mondiale non plus.
Oui.
Non plus.
Voilà, bon, on va peut-être revenir à... Oui. Oui. On s'était arrêté à la fin 42, hein, et donc le 31 décembre 42, hein, puisque c'est un peu une manie chez eux, ils arrivent toujours le 31 décembre, donc on va dire 1er janvier 43, hein, pour faire plus simple. Le 31 décembre 42, donc ils emménagent à Lyon chez René Tavernier, donc 4 rue Champbovet. Et ce sont deux chambres qui jouxtent les bureaux d'une revue, qui est une revue d'opposition. Hein, parce qu'il faut savoir que la situation littéraire en France, elle est la suivante. Le grand patron des lettres françaises, c'est Gallimard, sa revue, la NRF, et elle est tombée entre les mains de Drieux-La Rochelle, qui est donc l'artisan de la collaboration, et donc qui censure, qui dénonce, par exemple, il essaye de débusquer Aragon derrière certains poèmes, et comme ils ont été très proches, mais évidemment, il le reconnaît, donc il fait vraiment... Drieux-La Rochelle, il est vraiment ignoble, quoi. C'est de la délation en permanence. Et donc, il y a un certain nombre de revues d'opposition, hein, Pierre Segers, et il y a également René Tavernier, qui dirige cette revue qui s'appelle la revue Confluence. Hein. Et,
c'est à la mode.
Oui.
Oui. Oui, tout à fait. Et le sous-titre, c'est « Revue de la Renaissance française ». Et donc, ils sont logés à proximité de... le bâtiment a disparu, hein, d'ailleurs. La maison dans laquelle ils étaient, 4 rue Champbovet, a disparu. Et il y a une plaque que notre ami Jean Albertini avait dans le parc Champbovet, maintenant, hein, qui évoque le séjour d'Aragon et Elsa.
J'ajouterais juste une parenthèse, puisque nous aurons une quinzaine de jours au mois de mars à Manchat, donc toujours autour d'Elsa Triolet et obligatoirement Aragon. Eh bien, l'autre jour, on se disait pendant la réunion, sur la plaque, on parle d'Aragon et pas d'Elsa, donc il va falloir réparer ça.
Oui, oui, exact. Alors, on va commencer par évoquer toujours ce sujet quand on parle d'Elsa et de Lyon. Finalement, Elsa, on l'a vu, on l'a dit, la ville dont elle est amoureuse. Elsa, elle n'est pas amoureuse de la France, elle est amoureuse de Paris. Alors, il y a également une deuxième ville, hein, la ville d'Elsa, c'est Avignon. Hein, Avignon, dont elle tombe amoureuse d'ailleurs grâce à leur séjour chez Pierre Segers. À Villeneuve-les-Avignon. Et Elsa déteste Lyon. Alors, il y a de nombreux extraits. Mais on verra quand même qu'elle peut quand même se réconcilier. On verra un peu plus loin qu'elle se réconcilie avec Lyon grâce au Traboul qui aide quand même beaucoup la résistance. Alors, voilà ce qu'elle dit sur Lyon. C'est en préambule du premier accro coûte 200 francs.
À partir des combles d'un hôtel particulier à Manchat, faubourg de Lyon, je faisais l'apprentissage de cette ville, désolante, comme un poussiéreux bureau de notaire, tapissé d'anciennes archives de famille, pareil à des caveaux dans un cimetière. sur les quais, des maisons uniformes et plates, vrai dossier à héritage. Fortune cachée dans la suite et l'abandon des vieux murs aux entrailles de soie et de velours. Toute une ville étroite et tortillée comme le secret de ses traboules. Tragique comme l'eau du Rhône, de la Saône, avec ses noyers, les détritus, la navigation et les ponts qui l'enjambent. Lyon, alors bondée de gens de toutes sortes venus d'ailleurs, ville soudain promue capitale de la résistance. Vivant d'une vie intense et périlleuse, traversée par les bourrasques des rafles, s'engraissant au marché noir, souffrant de ses prisons.
Voilà, donc c'est la description. Et il y a plusieurs extraits d'Elsa qui vont dans le même sens. Alors on en vient quand même au premier grand événement littéraire d'Elsa Triolet, qui est la parution de son roman Le Cheval Blanc. Alors Le Cheval Blanc, en fait, il a été écrit, on en a déjà parlé lors de la précédente émission, il a été écrit à Nice, hein, pendant leur séjour à Nice en 41-42, mais seulement il est paru le 10 juin 1943, donc pendant leur séjour à Lyon. Et c'est un moment décisif parce que c'est jusqu'à présent, Elsa a écrit des nouvelles. Et là, on se trouve face à un roman de 542 pages, donc qui est j'ai pris la pagination dans la collection Folio, hein, on le trouve toujours chez Folio. Donc vraiment, on peut dire qu'Elsa entre dans la grande littérature, hein, sans vouloir mépriser l'art de la nouvelle, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans son œuvre. Par contre, et là ça va nous renvoyer un peu au fil blanc de cette émission, le texte d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, c'est que cet épisode va aller vers une crise conjugale extrêmement importante qui va inspirer à Aragon ce poème sur lequel il a été beaucoup écrit et sur lequel on se pose beaucoup de questions. Comment ce poète des yeux d'Elsa et de l'amour infini pour Elsa peut écrire un texte comme « Il n'y a pas d'amour heureux ». Alors, on va peut-être, pour expliquer ça, pour cerner ça, présenter justement quel a été le projet d'écriture d'Elsa quand elle écrit « Le Cheval Blanc ».
J'avais encore assez de jeunesse pour vivre dans l'amour. Or, si je ne connais pas l'amour malheureux, je sais ce que c'est que le malheur de l'amour. Le désespoir devant ce qui est toujours reste l'autre. Labyrinthe au-delà, paroi lisse. Et j'allais, comme malgré moi, inventer un homme pour me plaire. Imprenable, innocent des ravages de sa séduction. Un homme à femme qui ne serait pas un don Juan, qui aurait la beauté animale ne cherchant pas à conquérir, qui aurait tout ce que l'enfance a d'adorable, de spontané, de tendre, le rire, l'attachement, la confiance, l'enfance qui ne soupçonne pas son pouvoir. Un être simple et clair, avec tout le mystère de ce qu'il porte en lui sans le savoir. Michel Hugo, mon héros, prenait pour moi consistance, devenait un homme de son époque. Un diamant brut, une énergie non captée, non employée. Un homme en pure perte.
Et elle ajoute :
Le Cheval Blanc est le plus autobiographique de mes romans. Je veux dire le plus proche de ce que j'ai vu et senti du monde. Toute ma vie en est la source et ce n'est pas d'une étincelle qu'il est né, mais des braises de tout ce qui a brûlé autour de moi.
Alors effectivement, Elsa s'identifie à son héros, Michel Hugo, et aussi curieux que ça puisse paraître, elle en tomberait amoureuse, d'où l'origine de cette crise conjugale. Alors, si on creuse un peu, Aragon se trouve confronté à une femme, qui est en pleine maturation et qui est un petit peu nouvelle pour lui, puisque bon, il fait connaissance finalement d'une émigrée russe qui est un peu paumée, comme lui d'ailleurs l'est aussi, mais lui a quand même son statut d'écrivain reconnu, hein, surréaliste, ensuite romancier. Hein, à l'époque où on en est, il a eu par exemple le prix Renaudot. Avec Les Beaux Quartiers, donc c'est quand même un écrivain, c'est pas encore le grand Aragon, mais c'est un écrivain reconnu. Et il se trouve donc finalement avec quelqu'un qui joue dans la même cour que lui. Et je pense que à partir de là, bon ben effectivement, il faut ce temps de reconnaissance de l'autre, ce qui est pas aussi évident que ça. Et puis ensuite, alors c'est la version qu'a donnée Aragon. Il y a le problème de la résistance. C'est que la résistance, pour des par précaution, et ce sont des précautions qui se comprennent très bien, exige que les couples soient séparés, hein, s'ils sont arrêtés. Enfin bon, donc il y a plus de couple quoi dans la résistance. Et Aragon, alors très homme traditionnel, ben finalement verrait très bien Elsa continuer à écrire, mais pas s'occuper de choses de la résistance. Lui, poursuivant son chemin héroïque, et elle, bon, ben finalement écrivant. Et Elsa, à ce moment-là, menace de le quitter en disant non, je serai et romancière et résistante. Donc ils sont effectivement à ce moment-là sur le même terrain tous les deux. Et donc c'est Aragon qui finira par avouer. Et je trouve cet aveu, il est tout à son honneur. Elsa m'avait arraché mes lunettes masculines. Ces préjugés de l'homme qui, sous le prétexte d'assumer toutes les responsabilités du couple, confine la femme à n'être que sa femme, son reflet. Et donc il y a un moment de crise, quoi, hein, vraiment de dans cette identité de leur couple. Et en même temps, ça on va essayer de le développer rapidement, je pense que c'est à partir de l'écriture du Cheval Blanc que leurs œuvres vont vraiment commencer à se croiser. Et je serais prêt, enfin bon, ça faudrait l'argumenter, faire un travail de recherche autour de ça, je pense que sans le Cheval Blanc, il n'y aurait peut-être pas eu Aurélien. Alors, c'est quoi l'histoire du Cheval Blanc? Ben, l'histoire du Cheval Blanc, donc, ça tourne autour d'un héros, Michel Vigo, comme Maria l'a lu tout à l'heure, donc ce personnage qui traverse un peu tous les milieux, tous les pays, toutes les professions, et qui est un étranger. Et là, il faut pas oublier qu'on est dans une époque, 1942, à l'époque où c'est écrit, et forcément Elsa a pas pu lire encore l'ouvrage, elle le lira après. C'est l'époque où Camus écrit L'étranger. Et ce qu'il y a de saisissant dans ce très court roman qu'est L'étranger, puisque c'est, de ce point de vue, c'est l'opposé du Cheval Blanc, hein, c'est très très court, L'étranger, c'est justement ce personnage de Meursault, à qui la vie échappe complètement, sa vie lui échappe complètement, enfin le sens des conventions sociales de la vie lui échappe complètement. Et on va retrouver ça dans le Cheval Blanc. Alors donc on a un personnage qui est un personnage d'errance, qui ressemble sans doute beaucoup, quand elle dit c'est très autobiographique, au personnage d'Elsa qu'on a décrit dans les années 20, hein, ça c'est certain, l'Elsa de Montparnasse, etc. Et on retrouve au début du roman, bon, on retrouve la coupole, le dôme, la closerie des lilas, etc. Et puis, alors tout ça, ça se mêle, c'est ce qu'Elsa appelle ses collages. Elle mêle ses descriptions imaginaires à des collages, donc avec des personnages réels. Et on rencontre des personnages mondains de l'époque. Bon, Christian Bérard, qui était un grand décorateur de théâtre, hein, qui travaillait avec Jouvet. Jean Cocteau, mondain par-dessus tout, et puis Coco Chanel aussi, avec qui Elsa a travaillé. Et puis évidemment les différents lieux, c'est Paris, c'est Berlin, les États-Unis, hein, faut pas oublier qu'ils ont séjourné aux États-Unis en 39. Alors ce qu'il y a aussi d'intéressant dans ce roman, c'est ces relations. Alors, il y a beaucoup de relations amoureuses, et notamment il y a deux personnages dont l'un c'est Bielenki, qui est un personnage qui est fils d'un terroriste russe et juif et d'une mère fille de pop. Donc on retrouve ces personnages un peu exotiques, hein. Et puis il y a également un autre personnage, donc qui sera un personnage récurrent dans l'œuvre d'Elsa, c'est Elisabeth Krüger, qu'on retrouvera dans les la nouvelle « Les cahiers enterrés sous un pêcher » et également, surtout, dans ce grand roman d'Elsa qui est le rendez-vous des étrangers. Ce sera une des figures majeures du roman d'Elsa. Alors, tous ces gens-là se croisent, se rencontrent, s'éloignent, se défont, etc. Donc, à la fin, ces personnages vont quand même être rattrapés par l'histoire, un peu à la manière d'Aurélien, hein, puisqu'Aurélien, c'est ce personnage d'étranger permanent qui, quand même, est rattrapé par l'histoire. Et où on va retrouver ce thème de « Il n'y a pas d'amour heureux », puisque son grand amour, donc Bérénice, hein, qui aurait pu être le titre du roman s'il n'avait pas été emprunté par un illustre devancier, cet amour entre Aurélien et Bérénice, qui est très beau, en fait, il sera impossible. Et Michel Vigo, ça va être quelqu'un qui arrivera jamais à rencontrer la femme qu'il aime, qui est en fait Elisabeth. Michel Vigo, alors malgré lui, va mourir pendant la drôle de guerre comme un héros, alors qu'il n'est pas du tout un héros. Et l'inverse de Michel Vigo, c'est en fait Aurélien qui se prend pour un héros, puis qui, bon, en fait, va mourir un peu comme un pauvre type, quoi. Et il y a ce que je trouve très intéressant dans ces trois livres, hein, parce que j'inclus aussi l'étranger, même s'il n'y a pas la guerre en arrière-fond, c'est ces personnages qui arrivent, ces humains, enfin, qui n'arrivent pas à se construire, quoi, qui n'arrivent pas à devenir ce qu'ils voudraient devenir. Et ça, c'est profondément tragique et c'est lié quand même à l'histoire, quoi. Hein, Aurélien qui comprend rien à l'époque à laquelle il vit, et Michel Vigo, c'est un peu la même chose, quoi. C'est des gens, ils traversent l'histoire, mais on va apprendre sa mort. Parce que Bielinki, lui, va mourir dans un camp à Gurs, le camp des réfugiés qui avait été ouvert pour les réfugiés espagnols, hein, les républicains espagnols. Et il va apprendre par un camarade de Michel Vigo, qui est un personnage qui apparaît pas dans le roman, mais la lettre lui arrive. Le gars en question a combattu avec Michel Vigo, c'est là qu'il a fait sa connaissance, que sa conduite a été héroïque, et il est mort donc en appelant Elisabeth. Et on va avoir contrairement à ce que dit le roman traditionnel, hein, avec le narrateur omniscient, on va avoir ces personnages à qui la vie leur échappe en permanence, quoi. Et le secret de leur vie, on l'apprend quand ils sont morts, quoi, par exemple. Et ça, c'est ce thème de l'étranger, l'homme et les femmes, hein, l'homme au sens de l'humanité, qui ne domine plus rien parce que ils ont plus de prise sur la vie. Et ça, je trouve que c'est un très très beau roman.
Jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir des armées incertains, dites ces mots: ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et ceux-là sans savoir nous regardent passer. répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est notre amour à tous deux.
Version de Catherine Sauvage de « Il n'y a pas d'amour heureux » sur la musique de Brassens, les paroles de Louis Aragon, bien sûr. Je redonne la parole à Jean et Maria.
Alors, nous sommes à Lyon entre le 1er janvier et le 30 juin 1943, donc c'est pour une durée de 6 mois. Alors, il faut tout de même dire que cette période est extrêmement importante dans l'histoire de la résistance. Hein. Et alors là, justement, là, l'écriture est vraiment pas racoleuse, hein. C'est vraiment une grande période d'activité. Alors, ils font de fréquents voyages à Paris, et là, il va y avoir des retrouvailles quand même. Moi, j'aime bien citer cet épisode. C'est que, au printemps, ils sont attendus à la gare de Lyon par Paul Éluard et Nouche, donc, son épouse. Et faut pas oublier que depuis 1932, donc ils sont brouillés, hein, puisque c'est le moment de Front Rouge où Aragon a été exclu du mouvement surréaliste et où Éluard a écrit un texte très 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 violent contre Aragon qui s'appelait Paillasse, je crois. Et donc cette grande retrouvaille, et ça va être la fraternité jusqu'à la mort d'Éluard en 52, je crois. Voilà, donc tout ça, c'est la résistance qui se constitue. Il y a aussi tout cet épisode avec la création des lettres françaises, hein, autour du groupe Politzer, Jacques Decour, qui malheureusement verront jamais le premier numéro des lettres françaises. Et ça, c'est la résistance nord. Et faut aussi citer Jean Paulhan, hein, que j'oubliais, qui est important. Et eux sont chargés de la résistance dans la zone sud, et ils vont donc créer une autre publication qui s'intitule Les Étoiles. Et à la Société Aragon, on a d'ailleurs édité un très beau volume qui comprend les lettres françaises clandestines et Les Étoiles. Ça a été réalisé par François Échard pour les lettres françaises et Georges Ayot pour Les Étoiles. Georges Ayot étant un collectionneur vraiment assez unique sur Aragon. Donc les étoiles vont paraître entre février 1943 et la fin mars 1944, donc pendant un an. C'est des feuilles renéotées, hein, avec les moyens de l'époque, bien sûr, et qui circulent selon le système des étoiles, hein, chaque groupe renvoyant. Alors c'est une revue destinée aux intellectuels, mais pas seulement, une revue d'écrivains, hein. Aragon, faut pas oublier, est médecin, et c'est une revue qui s'occupe également de médecine. Faut pas oublier que la résistance, hein, il y a des blessés, il y a donc faut absolument tout organiser. Donc voilà, ça c'est la, c'est cette cette organisation avec cette idée extrêmement extrêmement importante de rassembler le maximum de d'écrivains, d'intellectuels, quelles que soient leurs opinions politiques. Alors bon, je citerai des gens quand même assez différents, quelqu'un comme François Mauriac, qui était catholique, Albert Camus, qui séjournait d'ailleurs dans la région, à la Chaise-Dieu, et puis également un poète bien oublié aujourd'hui, Pierre Emmanuel, qui était un poète catholique, ou également le père Brugberger, hein, qui était un ecclésiastique gaulliste, hein, c'était un gaulliste. Voilà, et alors Elsa, à cette période-là, va vraiment se mettre, ce qui n'était pas évident quand même pour les premières nouvelles ni pour le Cheval Blanc, Elsa va vraiment mettre son écriture au service de la résistance, et ça va être donc ce recueil de nouvelles. Le premier accroc coûte 200 francs, donc qui sera le prix Goncourt 1945, mais au titre de l'année 44. Hein, en 44, les jurés du Goncourt ne sont pas réunis. Donc il était décerné en 45, il y a eu deux prix, hein, celui de 44, celui de 45. Alors bon, faut quand même le dire, c'est la première femme à avoir reçu le prix Goncourt, qui était donc créé depuis le début du siècle.
Hein. Oui, j'ajouterais aussi que Elsa commençait à avoir une belle plume, puisqu'elle avait déjà eu 3 voix au prix Goncourt pour Le Cheval Blanc.
Pour Le Cheval Blanc, elle avait eu 3 voix au prix Goncourt 43. Voilà. Alors elle va publier, alors ces nouvelles seront réunies ultérieurement, hein, mais au départ les nouvelles vont paraître séparément, dont la plus connue, dont on va vous lire un extrait, qui s'intitule « Les amants d'Avignon » et qui a été publiée sous pseudonyme, puisque ce sont des publications illégales, sous le nom de Laurent Daniel renvoyant à ses amis communistes déportés ou fusillés, Laurent et Daniel Casanova. Donc Laurent Daniel, on trouve toujours d'ailleurs, hein, chez les bouquinistes ce petit opuscule. Moi, je l'ai trouvé il y a pas longtemps là sur Ketsoul. On les trouve. Voilà. Alors dans les amants d'Avignon, l'héroïne. C'est au départ, elle a rien d'héroïque d'ailleurs. Hein, c'est Juliette qui est une petite dactylo, hein, que les circonstances vont amener à se conduire héroïquement. Hein, c'est pas des gens qui sont nés héros, qui ont trouvé l'héroïsme dans leur berceau. Alors elle est amoureuse de Célestin, qui est un personnage qui est un autre résistant. Elle est amoureuse de lui, lui n'est pas amoureux d'elle. Bon, on retrouve toujours un peu ces schémas très très triolétiens. Et donc il y a ce thème que propre à l'époque, qu'on retrouve chez d'autres écrivains, c'est que les nazis nous ont tout pris jusqu'à nos rêves d'amour. Et on va trouver dans le sens de la résistance que résister, c'est aimer. Voilà, et ça c'est important. Et on trouve ça dans Les Amants d'Avignon. Et là, on va lire un extrait qui réconcilie un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, Elsa et Lyon, puisque l'extrait qu'on va vous lire se passe à proximité de l'opéra, hein, à l'époque où il y avait des boutiques autour de l'opéra de Lyon avant qu'il soit fait, et donc elle va pouvoir s'échapper grâce aux traboules, et les traboules vont devenir quand même un élément essentiel et de la résistance, et donc de l'écriture de résistance d'Elsa.
Voilà. Et du coup de l'intérêt pour la ville de Lyon
de Lyon, oui, bien sûr.
Les tables des boutiques dans le passage, les gens arrêtés aux devantures, le va-et-vient, encombraient les arcades de l'opéra, grand théâtre semblable aux arcades de l'Odéon à Paris. Seulement, ici, on vendait un peu de tout, des cartes postales, des lunettes, de la lingerie. Et l'ensemble avait cet air un peu louche, clandestin, que Lyon prend si facilement.
« On peut la laisser, il n'y a pas de chance qu'elle file !»
dit l'homme au par-dessus clair. Comme on les poussait de tous les côtés parce qu'ils continuaient à marcher à 3 francs sous les arcades du théâtre, les baies arrondies entre les piliers étaient fermées à mi-hauteur par des barrières de fer. L'Allemand abandonna le bras de Juliette avec un visible déplaisir. Il l'avait serré de plus en plus près.
Foran, marchez devant !»
dit-il. Juliette marcha devant, les deux hommes sur ses talons. Elle ne savait pas ce qu'elle était venue faire sous ces arcades, sauf qu'il fallait laisser le temps au miracle de s'accomplir. Elle s'arrêta devant l'opticien, regarda avec attention les lunettes, continua jusqu'à l'autre bout des arcades où, sur un grand plan vertical, étaient exposées des chansons. Juliette se mit à lire longuement les titres. Les deux hommes derrière elle, solides et implacables comme une porte de prison. Glisser, un mot impassant, crier. Elle avait si froid qu'elle était sûre de ne plus jamais se réchauffer. Il fallait se secouer, ne pas permettre au désespoir de la prendre à la gorge. Tant qu'il y avait de la vie, elle repartit dans l'autre sens. Les deux hommes derrière elle. Jusqu'au bout et retour, jusqu'au bout et retour.
« Attendez !»
dit l'Allemand. Il s'arrêta devant une papeterie-librairie. Son long nez, son chapeau perché sur ses cheveux drus, penché au-dessus d'une vitrine posée sur une table, le type à par-dessus clair demanda au vieux marchand avec des lunettes cerclées d'or s'il avait des cartes postales. Il y en avait à l'intérieur. L'Allemand s'y engouffra. Il avait l'air brave, ce vieux marchand. Il l'aurait sûrement aidé s'il avait su, s'il avait pu, parce que même en sachant...
« Je suis fatiguée, »
dit Juliette. Et elle alla s'asseoir en Amazone sur la barrière en fer de la baie. Dans la rue, il y avait des maisons sales, des camions, des cyclistes, une foule de piétons. Par ici, les traboules compliquées, avec des escaliers de tous les côtés, étranglés dans la pierre et le fer, des renfoncements, des passages, des échappées sur des courts puits, des portes aux enseignes. Soieries, soieries, des boîtes à lettres. Ces traboules où il faut monter des étages noirs, où il faut tourner, descendre, revenir sur ses pas pour trouver la sortie du labyrinthe, sont parfois encore renforcés par des hautes grilles aux ouvertures si étroites, un, deux barreaux d'enlevés, qu'un homme peut encore y passer de biais. Pas une caisse ni un ballot. Précaution, dit-on, des soyeux.
« Il vous fait attendre, votre amoureux !»
dit le geôlier de Juliette. De l'autre côté de la barrière, des marches de pied descendaient dans la rue. Les arcades étaient bien au-dessus de la chaussée. L'Allemand sortit de la boutique et écrivait des cartes postales qu'il tenait appliquées au mur.
« Si on marchait encore un peu !»
fit Juliette. Et ils recommencèrent à arpenter les arcades à deux. Elle et le type à par-dessus Claire. Des stylos, des objets en raffia, des pochettes pour cartes d'alimentation, des lunettes. L'Allemand les rejoignit. Il avait fini d'écrire ses cartes postales, il parlait maintenant entre eux à voix basse. Dieu sait ce qu'il complotait.
« Dites, mademoiselle, mon copain vous demande si vous ne voulez pas accepter un petit souvenir. »
Il rigolait doucement, le type à par-dessus Claire.
« Comment un souvenir ?»
Juliette se ramassait intérieurement. Quel était ce nouveau danger ?
« Mais n'ayez pas peur. Il veut vous faire un petit cadeau, quoi. Il ne faut pas vous gêner. Il a des marques plein les poches. »
Je ne sais vraiment pas quel petit cadeau qu'il choisisse lui-même pour que cela soit une surprise pendant qu'il y est. L'Allemand retourna à la papeterie. Juliette s'assit à nouveau sur la barrière.
« Je crois que votre ami a besoin de votre aide, »
dit-elle. On voyait à l'intérieur de la papeterie l'Allemand en grande conversation avec le marchand. Le type à par-dessus Claire le regardait, lui aussi.
« Il se débrouillera, »
dit-il, toujours rigolard. Juliette jeta ses jambes de l'autre côté de la barrière et sauta du haut des marches dans la rue.
« Je ne peux tout de même pas vous laisser seul ici, vous pourriez nous fausser compagnie. »
Juliette s'enfonçait comme un boulet dans une traboule de la maison d'en face. Arrivée dans la cour, elle s'arrêta. Folle, elle ne comprenait plus rien, sachant à peine où elle était. S'il fallait descendre ou monter cet escalier, si c'était un passage ou simplement une cour, elle s'immobilisa. Comme on le fait dans le temps, quand on se trouvait pris au milieu d'une place entre les dangers tournants des voitures. Un homme apparut. portant un ballot.
Pardon, monsieur, est-ce que ça traboule par là?
Mais oui.
Oui, mademoiselle. Par là et par là et par là.
De traboule en traboule, les rues à traverser entre les traboules, elle s'y jetait comme à l'eau. Mais maintenant, elle était sûre de son affaire. Même s'ils avaient essayé de la poursuivre, le filet des traboules les tenait.
Voilà, juste une chose pour terminer sur cet épisode des Amants d'Avignon. C'est dans cette nouvelle que Elsa va créer une formule qui deviendra célèbre après-guerre, où elle qualifiera, parce que au cours de ses écritures de nouvelles, elle se rapproche beaucoup des FTP et du Parti communiste français, et elle aura cette expression qui durera longtemps, le parti des fusillés. Voilà, donc ça, je pense que c'était important de le dire. Et puis ensuite, ils se rendront donc à Saint-Denis.
On écoute Jean-Louis Trintignant.
Ah oui.
Il n'y a pas d'amour heureux. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir désœuvrés, incertains? Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est notre amour à tous deux.
Jean-Louis Trintignant disait sur fond musical, il n'y a pas d'amour heureux.
Voilà, oui, c'est une interprétation vraiment merveilleuse. Alors, la fin de notre séquence, là, de notre période, donc, va nous conduire à Saint-Denis-sur-l'Herbasse, du 1er juillet 1943 à l'automne 1944, hein, jusqu'à la libération. Aragon et Elsa sont trop exposés à Lyon. Donc, la résistance les conduit à munis de faux papiers au nom de Lucien Louis Andrieux et Elisabeth Marie Andrieux. Faut savoir que, hein, Louis Aragon est le fils de Louis Andrieux et c'est la seule fois de sa vie où il prendra le nom de son père. Ouais. Et donc, ils vont se réfugier à Saint-Denis-sur-l'Herbasse. À l'époque, c'est donc une petite commune de la Drôme des Collines, qui est situé à une trentaine de kilomètres au nord de Valence et puis une quinzaine de Romans, hein, à peu près. Et à cette époque, sa population, j'ai vérifié, elle est d'environ 2000 habitants, hein, alors qu'aujourd'hui elle est approximativement du double. Ils sont logés donc chez Claire Bray, dont le mari donc est prisonnier. Elle vit avec son petit garçon Michel, qui est donc notre ami Michel Bray, indéfectiblement attaché aux souvenirs d'Aragon et d'Elsa et à l'esprit de résistance de cette période, qui est également membre de la Société des Amis de Louis Aragon, Elsa Triolet. Alors, Michel, dans une revue que nous éditons, a évoqué il y a quelques années ses souvenirs sur Aragon et Elsa. Et je voudrais vous lire quelques extraits de... Il était petit, hein, il avait 5 ans. Nous ne savions pas d'où ils venaient. Nous ne savions pas qui ils étaient. On peut dire que c'est une grande confiance réciproque. Ma mère voyait bien qu'ils étaient instruits. Bien sûr, cela l'intriguait. Louis était grand et il émanait de lui une majesté. Il en imposait. Les souvenirs que j'ai sont fragmentaires, mais je revois toujours Aragon dans la cuisine, marchant de long en large, une main dans sa poche, la tête dans ses pensées. Et à des moments inattendus, il venait se mêler à la conversation entre ma mère et Elsa. Aragon impressionnait beaucoup ma mère. Elle disait qu'il était capable de suivre plusieurs conversations et de continuer à penser. Il fallait aussi parler avec les voisins et leur dire que nous avions des locataires. Ne pas laisser de mystère. Madame Genevet, la voisine, leur faisait des tartes à l'oignon. Louis en raffolait et Elsa se forçait. Elsa appréciait les bons cafés chauds que lui préparait Arsac quand elle rentrait de ses liaisons pour la résistance. Elle y trouvait un moment de réconfort, de détente et de compagnie chaleureuse. Un jour, Louis dit à ma mère, « Claire, je vais vous lire un poème. » Et ma mère de répondre, « Oh, vous savez, moi je ne connais pas la poésie. » Le premier poème qu'il lui lut fut celui de Gabriel Péri, ballade de celui qui chanta dans les supplices ou légende de Gabriel Péri écrit en 42. Ce n'était pas facile à supporter, mais quand il lut celui de Daniel Casanova, sans doute le chant 7 du musée Grévin, trop ému, elle éclata en sanglots. Ma mère a entretenu ce lien en leur apportant des provisions. Chaque semaine, il y avait une complicité, une intimité, une confiance qui s'était établie entre eux. La veille de Noël 1943, ma mère leur apporta une dinde. Louis proposa à ma mère de rester avec eux. Ils avaient été invités à manger chez les Chancels. Les Chancels, c'était les pharmaciens de Saint-Donat. Et la dinde était l'occasion d'améliorer l'ordinaire. La vie clandestine imposait une tension et fêter Noël était une bonne occasion d'être ensemble. Je n'ai pas de souvenir qu'Aragon se soit occupé de moi, mais je sens encore la main d'Elsa ébouriffant mes cheveux. C'était certainement sa manière à elle de porter attention à ce gamin qui était dans leurs jambes. Voilà, alors cette période qui est longue, hein. Donc là, ils ont une intense activité de résistance. Donc ils vont prendre le train à Saint-Vallier, hein, qui est la gare donc sur le trajet Lyon-Marseille. Et donc à partir de là, eh ben ils rayonnent sur Paris, Lyon, Marseille. Et par exemple, Elsa effectue un portage pour les Étoiles sur la résistance. Et puis ils continuent d'écrire tous. Hein. C'est à Saint-Denis qu'Aragon va achever Aurélien. D'ailleurs, je me souviens que Jean Albertini voulait absolument montrer que l'épilogue d'Aurélien, qui est censé se passer dans le Poitou, puisqu'Aurélien, la fin d'Aurélien, c'est dans le Poitou, en fait, les paysages étaient ceux de Saint-Denis. Mais bon, il connaissait pas suffisamment quand même la région, la topographie des lieux pour pouvoir l'établir avec certitude. En ce qui concerne Elsa, elle a écrit des nouvelles dont on ne peut que recommander la lecture, notamment La vie privée ou Alexis Slavski, qui pose justement le problème de l'artiste et de la société. Ça, on y reviendra quand on parlera du monument. C'est une chose qui est très obsédante pour Elsa. Et puis les cahiers enterrés sous un pêcher, bien sûr. Et lors de leur déplacement futur après la guerre, bon, ils continueront toujours d'entretenir des relations avec Claire Bray. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette période à Saint-Denis qui est très intense, hein, avec une fin de séjour, notamment les moments de la libération où il va y avoir cette fameuse représailles qui est honorée d'ailleurs chaque année à Saint-Denis et où la fille Chancel, oui quand même, on a parlé du Chancel, donc ce sont les pharmaciens de Saint-Denis et lui, Jean Chancel, dirige la résistance, c'est un chrétien, je crois qu'il deviendra maire d'ailleurs après la guerre de Saint-Denis sur l'air basse.
Voilà. On partira de là dans notre prochaine émission, non?
Voilà.
Alors pour terminer celle-ci, eh bien, je propose à nos auditeurs d'entendre une dernière version d'Il n'y a pas d'amour heureux. C'est sûrement une des plus impressionnantes, c'est celle d'Hélène Martin. Bonsoir, merci à vous et puis à bientôt.
À bientôt, Jean-Pierre.
À bientôt.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, désœuvrés, incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux.
Thank you.